Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Livre des Juges au chapitre 6 et à partir du verset 13. Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi ? Toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Une deuxième lecture qui va compléter celle-ci, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 63, verset 11. « Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse, où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau, où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint, qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel. » Troisième lecture, et ça sera la dernière, livre des Actes, chapitre 9, livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 32. Comme Pierre visitait tous les saints, entendez par là les chrétiens, comme Pierre visitait tous les chrétiens, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. Voilà que Dieu nous enseigne, nous instruit ce matin. Et nous sommes devant des interrogations, des questions. Vous avez remarqué dans nos deux premières lectures, c'est Israël qui s'interroge, perplexe, et il dira ceci par la bouche de Gédéon, « Où sont tous ces prodiges ? Où sont tous ces miracles ? Où sont tous ces signes que nos pères nous racontent ?» Et puis dans Ésaïe, vous avez remarqué ce petit verset, « Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint ?» À vrai dire, ce sont des interrogations. Parce que Israël a été un peuple qui a été accoutumé aux miracles, aux signes, à la puissance. Quand on lit l'Ancien Testament, eh bien, on en est convaincu. Quand on voit la manière dont Dieu a conduit ce peuple, a mené ce peuple, les récits qui nous sont laissés dans cette partie, première partie de la Bible, on se dit, mais nous avons un Dieu puissant. Israël a un Dieu puissant, un Dieu fort. Et puis il arrive des temps où on s'interroge et on se dit, mais où sont tous ces signes? Où sont tous ces prodiges? Où sont tous ces miracles? Où est celui même que nous avons connu comme tout-puissant et qui finalement, eh bien, a disparu? Est-ce que c'est lui qui a disparu ou c'est nous qui avons disparu? Où est celui qui mettait au milieu de son peuple son Saint-Esprit? Alors, on va essayer de répondre à cette question parce que nous sommes assurément dans des temps où nous sommes fortement interrogés. On est interrogé par le monde autour de nous. On est interrogé par l'état de l'Église et peut-être l'état individuel des uns et des autres, se dit « Mais où est ? Où est-il ? Que fait-il ? Que nous reste-t-il ? Nous le savons, ça existe. Mais aujourd'hui, pourquoi les choses sont-elles différentes ?» Alors j'ai pris ce petit texte qui est riche, me semble-t-il, dans Actes, cette histoire de Pierre, qui là, eh bien, visite les contrées, la ville de Lydde, entre autres, et il y voit un homme qui est paralysé depuis des années, et Pierre lui dit simplement un mot, « Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi, arrange ton lit et marche. » Aussitôt, il se leva. Quand on lit ça, c'est tout simple. Mais qu'en est-il ? Qu'en est-il réellement ? Alors moi, j'aimerais que nous développions notre pensée ce matin autour de cette question pour que, et vous dire, et je le crois au fond de mon cœur, pour vous dire que Dieu n'est pas mort, que le Saint-Esprit est toujours présent et que sa parole est agissante et opérante. Et ça, il faut que nous nous en souvenions, que nous nous rafraîchissions. Voilà, hein, que nous nous rafraîchissions. Avec le départ de Jésus, la disparition des apôtres, c'est-à-dire cette période que l'on nomme période apostolique, il est courant, et même parfois, même dans les milieux chrétiens, il est courant de penser que le temps des miracles est terminé. Voilà, c'est ce que l'on déclare. On l'a même enseigné dans les écoles ou dans les instituts de théologie. Dieu est mort, ça n'existe plus. Tout ça, ce sont des belles histoires, mais ça n'existe plus. Depuis des siècles, l'Église s'est tue sur la question. Ça la gêne, ça l'embarrasse de parler, eh bien, d'un Dieu puissant. D'un Dieu qui parle de doctrine, de théologie, enfin qui s'explique lui-même, qui nous donne toutes sortes de choses de ce genre, intellectuelles, cérébrales. Ça ne dérange pas. Mais un Dieu qui agit, c'est autre chose. Où est donc, où sont donc, précisément, où sont donc passées les guérisons de l'Évangile ? Où sont donc passés les miracles, les prodiges de l'épopée évangélique ? Parce qu'on peut dire que quand à chaque fois qu'on tourne une page, on s'aperçoit que c'est extraordinaire. On voudrait bien vivre, on voudrait bien peut-être revivre cela. Pour les plus anciens d'entre nous, il y a eu des temps de réveil dans notre pays, dans les années 30, alors il ne doit pas en rester beaucoup, des survivants des années 30, peut-être encore quelques-uns. Mais après la guerre, un souffle de l'esprit qui est venu dans les années 60 et qui a fait que de nombreuses églises se sont ouvertes un petit peu partout. Alors, elles étaient fondées sur des signes, des miracles et des prodiges. Elles étaient fondées sur quelque chose qui avait finalement, eh bien, sa racine, son inspiration et son animation à travers ce que la parole de Dieu nous déclare. L'histoire n'a-t-elle pas recouvert de poussière toutes ces merveilles et relégué, excusez-moi l'expression, mais relégué au rang de légende, la vie passionnante de Jésus, ses œuvres d'amour, sa puissance libératrice, légende que l'on rapporte ou que l'on raconte aux enfants en disant avec la formule consacrée « Il était une fois ou en ce temps-là ». Eh oui, on a des beaux livres d'enfants, livres bibliques, comme le monde en a en son sens, mais on se dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire tout cela ? Que reste-t-il ? » Alors, je pense qu'il faut revenir aux sources. Et j'insiste sur le fait de s'abreuver et de se rafraîchir à la source pure de la parole de Dieu. Et à chaque fois qu'il y a un retour à la parole de Dieu, une prise de conscience, eh bien il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se fait. Alors revenons à la Bible qui affirme que, contrairement à toutes les voix qui s'élèvent et qui sont de plus en plus nombreuses, eh bien que ce temps n'est pas révolu, et moi je dirais même au contraire. Dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire du christianisme, il y a toujours eu des sommets et il y a eu des abîmes. Il y a eu des côtes et puis il y a eu aussi des descentes. C'est comme ça, c'est pas linéaire. C'est souvent, eh bien, ça va d'une manière très ondulatoire. Alors, Les plus belles preuves nous en sont fournies par le livre précisément des Actes des Apôtres, le livre que nous avons ouvert il y a un instant, parce que, si je peux lui donner un autre nom, je dirais que le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre de la continuité. C'est pas un testament, c'en est un si vous voulez, mais c'est le livre de la continuité évangélique. La meilleure preuve, c'est que celui qui en est l'auteur, c'est-à-dire là, Luc, écrit ceci, et il commence par cela, chapitre 1er, verset 1er, écoutez. Il dit ceci, « J'ai parlé dans mon premier livre, il s'agit de l'Évangile, j'ai parlé dans le premier livre, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire. Il n'a fait que commencer de faire. Jésus a été tout simplement, eh bien là, l'initiateur, l'inspirateur de tout cela. Il a pris 12 hommes avec lui pour qu'ils voient comment les choses. Ça, c'était l'école de théologie à laquelle ils ont été soumis. Il leur demandait pas tant de faire que de le regarder faire, de s'imprégner, de se remplir finalement eh bien, de cette grâce par la foi pour qu'ensuite nous entendons résonner dans l'évangile de Marc au chapitre 16, c'est-à-dire le dernier chapitre de Marc, il est dit « Allez maintenant par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. » Enfin, sera perdu si vous voulez. Ou alors, eh bien voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, avec toute une suite, pour les malades, pour ceux qui ont besoin de délivrance, pour ceux qui ont besoin d'affranchissement, pour ceux qui ont besoin de salut. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, le livre que nous avons ouvert, le livre des Actes, c'est le livre de la continuité évangélique. Et nous, nous devons croire que nous sommes encore dans cette continuité. Le Seigneur n'est pas revenu, me semble-t-il. À moins que je ne le sache pas. Mais le Seigneur n'est pas revenu. Nous sommes toujours dans cette même trajectoire de la continuité. Hier, ce n'était que le commencement. Quand Luc, quand les apôtres, tous ces hommes que nous trouvons apparaître dans les pages de notre Bible, ce n'était que le commencement. Continuité reposant sur les promesses même de Jésus. Lorsqu'il affirme ceci au chapitre 14 de l'évangile de Jean, verset 12, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi. » Vous avez remarqué, il fera également, il fera de même, il fera aussi les œuvres que je fais. Et qu'est-ce que Jésus nous révèle à ce moment-là? Il en fera de plus grandes. Imaginez-vous qu'il en fera de plus grandes que nous faisons faire, que nous avons la possibilité, que Dieu nous a donné le pouvoir de faire des œuvres plus grandes encore que celles de Jésus. Ça paraît étonnant tout cela. Alors Jésus veut s'expliquer naturellement et nous comprenons ce qu'il dit. Il en fera de plus grandes dans un avenir proche et lointain. Parce que les miracles ne sont pas l'exclusivité des apôtres, mais le privilège de tous ceux qui croiront et qui croient aujourd'hui. Ouais, tous ceux qui croiront. C'est pas autre chose que la manifestation de cette puissance du ciel, de cette puissance de l'Évangile, eh bien ce n'est pas autre chose qu'elle ne repose sur aucun autre fondement que notre foi. Ce n'est pas une question de privilège ou de prérogative exceptionnelle qui serait donnée à certains. Non, uniquement sur la foi. Et Jésus de dire, il en fera de plus grandes dans le temps et dans l'espace. C'est vrai que le ministère de Jésus a été très limité à 3 ans. Environ. Mais ça fait 2000 et quelques années que les choses continuent. Nous sommes dans la continuité. Alors il y a eu dans cette période que l'on appelle l'ère du christianisme, l'ère chrétienne, c'est vrai, des sommets, des réveils, des souffles de l'esprit. Où là, eh bien, Dieu a fait trembler la terre et le cœur des hommes surtout. Et puis il y a eu des effondrements. Et je ne sais pas dans quelle situation nous nous trouvons aujourd'hui. En tous les cas, on sait qu'on n'est pas au sommet. Peut-on juger qu'on est complètement au fond? C'est autre chose. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que nous voulons regarder vers le ciel, nous voulons pas regarder vers le bas, nous voulons regarder vers ce qui est en haut. Hier en Palestine, les temps évangéliques, aujourd'hui, jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, nous pouvons dire qu'il y a continuité, parce que Quand on voit toutes ces missions qui sont répandues dans le monde entier, porteurs d'un message auprès de gens qui sont, eh bien, probablement ce qu'on appelle le tiers-monde, hein, et chez nous le quart-monde, quand on voit qu'il y a des gens qui s'ouvrent à l'Évangile, eh bien, je dis merci Seigneur, parce que peut-être que là, nous avons encore une preuve que si ça se fait peut-être difficilement chez nous, eh bien, ça, il y a des choses extraordinaires qui se passent ailleurs. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Ça, c'est une bonne leçon. Alors, qui douterait de l'interruption de la puissance miraculeuse du Christ quand il affirme, et nous l'avons vu dernièrement, nous avons partagé un message autour de ça, « Mais je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui pourrait changer? C'est vrai que la présence physique de Jésus, il n'est plus là. Mais n'a-t-il pas donné avec certitude, n'a-t-il pas serré au fond du cœur des croyants cette parole? Eh bien, qu'il ne nous laisserait pas orphelins et qu'il nous enverrait le Consolateur. Présence physique de Jésus, elle a disparu, certes. Mais il y a une chose, c'est qu'il est présent par son Saint-Esprit, là, partout, dans nos vies, dans nos cœurs et dans le monde entier. Alors le Saint-Esprit, et vous en connaissez la doctrine, c'est une personne avant d'être une puissance. Mais quand vous alliez les deux, eh bien moi je dis que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Et il règne au milieu des hommes qui veulent bien l'accueillir. Et des hommes qui croient encore qu'il existe. Et des hommes qui invoquent le nom de Jésus pour que Dieu justement agisse et opère, comme nous l'avons dit, des signes, des prodiges, des miracles. Continuité confirmée et assurée par les apôtres dans le livre des Actes, celui dont nous avons donc la page ouverte. Au chapitre 2, au verset 43, il nous est dit qu'après la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, alors il nous est dit qu'il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Vous tournez trois pages et vous arrivez au chapitre 5, toujours du même livre des Actes. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et voilà. Et vous tournez encore d'autres pages, vous allez en trouver. Et encore d'autres. Et toujours, imaginez-vous, il se faisait beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles et de prodiges, nous dit le texte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas par-ci, par-là, c'est beaucoup. Une pluie, une averse, un torrent qui descend du ciel. Et c'est vrai que ça a été fondateur de l'Église première. Parce que les gens, finalement, qui avaient été touchés dans leur cœur, ou bouleversés dans leur âme, délivrés, la manifestation de Dieu se révélant, finalement, dans leur vie de misère, eh bien, ils avaient un témoignage, en tous les cas. Vous ne pouvez pas dire, j'ai cru parce qu'on m'a parlé, ceci, cela, etc. J'ai adhéré. Non, c'était des gens qui allaient beaucoup plus loin qu'une adhésion. C'était une véritable conviction et une conversion. Et c'est ça ce que nous avons besoin si nous voulons voir l'Église grandir. Mais ce n'est pas à l'homme de le fabriquer. Je dis bien, il y a des faux réveils. Il y a des bricoleurs, il y a des gens qui sont en train de soupirer après un souffle de l'Esprit, mais qu'ils font eux-mêmes. Et ça, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est une contrefaçon, une caricature dont le diable va vite s'emparer pour finalement confondre. Parce que quand Dieu a constitué les choses de cette manière, je peux vous dire que c'était lui qui faisait les choses. Et puis, continuité est relayée par une multitude d'hommes qui auraient, qui ont eu, et qui ont encore aujourd'hui, et dans la suite des temps, l'audace de croire à la survivance des promesses divines. C'est ça ce qui nous avons besoin. Et si nous avons besoin de demander quelque chose à Dieu, c'est de nous, donne-nous l'audace de croire, Seigneur. Alors on lit la Bible. Mais lire la Bible, c'est une chose. On la connaît, la Bible. On en connaît quand même une certaine partie. On connaît les grands événements. On connaît bien des éléments de cette parole. Mais la connaître, c'est une chose. Il faut que derrière la connaissance, il y ait un engagement de foi. Il y ait quelque chose qui, véritablement, eh bien, quelque chose qui nous transporte dans cette dimension de foi. Pas une foi superstitieuse, comme nous avons parlé vendredi soir, mais une foi spirituelle. Une foi qui naît au contact de la parole de Dieu et qui nous amène, eh bien, à dépasser les limites, en quelque sorte, de nos peurs, de nos timidités, de tout ce qui est humain, pour mettre notre confiance uniquement et simplement en Dieu. Et c'est là où nous voyons que Dieu est à l'œuvre. Parce qu'aujourd'hui, nous n'osons même plus faire un geste. Nous avons tellement de recours de droite et de gauche, tellement de possibilités, qu'on se dit, mais est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Eh bien, c'est quand on n'a plus rien que Dieu fait. Parce que là, on ne se raccroche plus à rien, on ne se raccroche qu'à lui. Et c'est peut-être le mal de notre société actuelle. On en reparlera d'ici quelques instants. Alors, avoir l'audace de croire à la survivance, à la permanence même, des promesses divines. Il y a une autre promesse qui, là, nous fait encore avancer plus loin, parce qu'elle nous fait rentrer dans cette dimension de ce qui est action. Il y a cette promesse qui nous vient, où il est dit ceci, vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevrez le Saint-Esprit parce que la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants, c'est-à-dire les générations suivantes. Et s'il y a quelque chose que nous devons communiquer à ceux qui nous suivent, eh bien, c'est bien cela. Parce que le Saint-Esprit, c'est la vie. C'est la vérité. C'est la puissance de Dieu. C'est la grâce de Dieu, le Saint-Esprit. C'est la sainteté de Dieu. Alors, on sait très bien, quand ça a été prononcé, ce mot, c'est Pierre. Après la Pentecôte, après ce discours fleuve qui rassemble des centaines et des milliers de personnes, dont 3000 se convertissent, me semble-t-il, 3 ou 4000, enfin bon, on n'est pas à 1000 près à ce moment-là. Hein. Et il dira ces mots, mais vous recevrez le Saint-Esprit, dit-il à cette foule qui a faim et soif. Hommes, frères, que faut-il que nous fassions? Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, les hommes de tous les siècles. Eh oui, c'est vrai encore pour nous en 2008. Aussi, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Est-ce que nous croyons encore que Dieu est encore capable d'appeler des hommes aujourd'hui? Ah oui, parce que ça fait partie du programme. Moi, je crois que le Seigneur est encore capable d'appeler des hommes et des femmes. Par-delà le travail, par-delà l'action, par-delà les démarches, je pense au prospectus, je pense à tout ce qui se fait sur Internet et tout cela, tous ces moyens, etc. Mais par-delà tout ça, moi je crois que Dieu, à cause de la prière de l'Église, à cause des hommes et des femmes qui se tiennent devant Dieu et qui disent « Seigneur, eh bien, envoie encore des âmes, sans moyens humains, il est encore capable de faire rentrer des nouvelles personnes dans cette salle. » D'aller les chercher, de les toucher, de les bouleverser et de les transformer, de les sauver. Ouais. Alors, ne baissons pas les bras, nous avons du pain sur la planche. Continuons à travailler. Ne restons pas à regarder les nuages, parce que vous savez que le livre des Proverbes nous dit que celui qui regarde les nuages ne sème pas. Mais une chose qui est certaine, c'est que par-delà tout cela, eh bien, le Seigneur est encore capable de prendre un homme, une femme, dans une ville, dans un quartier, dans une famille, et de l'amener miraculeusement. Moi, j'y crois à ça. Et de l'amener comme ça, à pousser la porte en passant sur ses... C'est déjà fait, hein. Même d'avoir une vision, quelquefois, juste avant, et de dire, eh bien voilà, c'est ici qu'il faut que j'aille. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Moi, je dis que c'est un miracle. Et puis, pour certains d'entre nous, comment Dieu est allé nous chercher, hein. Moi, quand je pense un petit peu comment il m'a récupéré, je me dis, c'est quelque chose, hein. Quelque chose. Alors, c'est vrai hier, c'est vrai il y a 30 ans, il y a 40 ans bientôt. Mais est-ce que vous croyez que ce n'est pas possible encore aujourd'hui? Mais bien sûr que c'est possible. On a dit que le Seigneur ne change pas. Il ne change pas. Alors moi je dis qu'il les appelle pour les baptiser du Saint-Esprit, il les appelle pour les sauver, il les appelle pour les guérir, il les appelle pour faire tout le bien qu'il en réserve. Quoi qu'il en soit. Ceux qui auront cru et qui croiront encore verront la réalité du miracle et des miracles. Et par cela, nous sommes des chrétiens témoins d'expérience. Quand le gadarénien a voulu rester avec Jésus, Jésus lui a dit « Non, tu ne me suis pas ». Et ça aurait fait un disciple de plus, hein. Jésus lui dit « Retourne dans ta maison, retourne dans ta famille, retourne vers ta nation et raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi ». Voilà. Témoins chrétiens d'expérience. On pourrait supposer que l'Évangile fait partie d'un lointain passé et a été composé pour un lointain avenir, entre autres la fin du monde. C'est vrai que c'est cela. Mais son message est avant tout une interpellation pour le présent. Où sont les prodiges, nous l'avons lu dans Juges, que nos pères nous racontaient? Nous avons entendu des choses extraordinaires de ceux qui nous ont précédés. On a eu des témoignages formidables de conversion et magnifiques et extraordinaires. Mais aujourd'hui, c'est à nous d'en avoir pour le raconter à ceux qui viennent après nous. Parce que c'est un témoignage du présent. Est-ce que Dieu se serait mis en chômage? Est-ce que Dieu aurait fait une pause? Non? Et on va voir pourquoi. Les choses sont peut-être différentes aujourd'hui. Parce que c'est une interpellation pour le présent. Notre Dieu, en lequel nous croyons, est un Dieu pour le présent, pour la vie quotidienne, pour les soucis d'aujourd'hui, pour les problèmes d'existence du jour. Et il donne une réponse d'actualité. Et vous ne croyez pas qu'il y a des problèmes dans notre monde? Il y en a un. Et il y en a beaucoup. Et il va peut-être y en avoir encore plus. Eh bien, moi, je dis que la présence d'une église, la présence de chrétiens véritables et authentiques qui croient en Jésus-Christ, eh bien, nous avons notre place dans notre société aujourd'hui. Nous avons quelque chose à y faire, nous avons quelque chose à y communiquer. Et ne pas nous laisser balloter par le monde en regardant les informations et tout ça, parce que là, on va avoir du vague à l'âme. Hein. Mais nous avons notre place et notre réalité dans ce monde. Jésus affirme, et je le répète, je suis tous les jours avec vous. La Bible ajoute, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous allez me dire, c'est un lieu commun tout ça. Je suis en train de rappeler des choses très simples. Mais faut-il les rappeler? Dans Exode, au chapitre 15, écoutez bien, la permanence de Dieu est ce Dieu qui agit au présent, pas demain. Hier, oui, d'accord, on le sait. Demain, certainement. Mais aujourd'hui, c'est maintenant, c'est au moment où nous parlons. Vous voyez? Au moment où je vous parle, Dieu est en train et veut agir au milieu de nous, dans nos vies. Et dans Exode chapitre 15, il est dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Ce n'est pas « Je te guérirai. » Je te guéris aujourd'hui. Dans le psaume 103, autre citation, « C'est l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. » Ça, c'est pour la guérison divine. Ou encore, dans le psaume 107, « L'Éternel envoya sa parole et il les guérit. » Ou encore, Ésaïe 53, vous le connaissez, c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Un fait, celui de la croix, de la rédemption au calvaire, eh bien, c'est aussi une réalité pour nous aujourd'hui. Alors, si vous êtes malade, si vous êtes aux prises avec un problème d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas demain, c'est maintenant. Et c'est dans la foi que vous allez pouvoir le saisir. Que vous allez le saisir. C'est ça la différence. Nous avons un Dieu qui est un Dieu du présent, pas du passé. Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint? Oui, mais il est encore au milieu de nous. Est-ce que Dieu aurait changé? Toute la question est là. Est-ce que Dieu aurait changé? Est-ce qu'il aurait oublié ce qu'il a dit? Jamais. Moi je dis et j'affirme jamais. Dieu n'oublie pas. Parce que si nous avons besoin de le savoir d'autant plus... Je vous ai dit dans Jacques qu'il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Ouais. Lui ne change pas, quoi qu'il en soit. Il est immuable, il est fidèle, il est constant, et il est toujours le même. Je voudrais faire une remarque maintenant autour de cette permanence de Dieu. L'homme d'hier comme celui d'aujourd'hui a autant besoin de guérison, de salut, de rédemption, d'espérance dans l'éternité. L'homme est l'homme. Hein. On est tous faits du même argile. Ça, c'est clair. Et il y a une grande différence, pourtant. C'est que l'homme des temps actuels, ce que nous sommes aujourd'hui, s'est donné les moyens de se guérir ou de se sauver lui-même. Eh oui, c'est assez étonnant. Mais, dans un certain sens, nous pouvons bénir tout ce qui s'est fait. Et dire, oui, c'est formidable, nous vivons dans une époque extraordinaire. Mais d'un autre côté, nous voyons que, parallèlement, il y a un autre phénomène, ce qui ne devrait pas être d'ailleurs. C'est parce que finalement, il y a là un délitement de la foi. Eh bien, c'est qu'à partir du moment où nous nous sommes donné les capacités ou les facultés de guérir ou de se sauver soi-même, eh bien, pourquoi irions-nous recourir à Dieu? Ben oui. Nous, on a des choses concrètes que l'on voit tangibles, palpables, consommables. Et comment l'homme irait-il chercher un Dieu qu'il ne voit pas, un Dieu invisible? et pourtant qui parle, qui a parlé et qui parle encore et qui nous invite à venir vers lui. Mais la question se résout d'une autre manière. Cet homme d'aujourd'hui, est-il plus heureux et réussit-il dans sa vie, finalement, quand on voit tous les échecs, quand on voit les états de dépression, quand on voit tous les suicides, quand on voit les gens qui sont désespérés? J'ai appris cette semaine, selon les statistiques de la région, il y a un suicide par jour sur le pont de Saint-Nazaire. Vous savez ça? Moi, je l'ai appris. Vous vous rendez compte de ce que ça représente? C'est quelque chose d'affreux. Et ça fait 35 ans qu'il est ouvert, ce pont. Vous faites la multiplication, vous verrez les centaines et les centaines de gens qui se sont balancés du haut du pont. Ça, c'est un phénomène terrible. Hein. Et la question, elle est là. Est-ce que l'homme d'aujourd'hui est plus heureux? Il a tout. Enfin, façon de parler, relativement. Mais est-ce qu'il est plus heureux? Est-ce qu'il vit certainement dans un confort, dans un bien-être? Mais au fond de son âme, il y a un immense vide, il y a un océan de vide. Plus ces moyens humains se sont développés, guérison, et je ne suis pas acheté la pierre, hein, au contraire. Je reconnais que Dieu a donné aussi la sagesse et l'intelligence à certains de faire aussi, pour soulager les autres, hein, pour faire vivre aussi les autres dans une certaine mesure. Mais la guérison par la science, la médecine, médicaments, plus l'homme s'est éloigné de Dieu, plus il a perdu la notion de s'attendre en toute chose, finalement, à celui qui est son créateur. La notion de s'attendre en toute chose. Et ça, ça nous concerne tous. Combien avons-nous de réactions parfois en disant, bien, je vais aller vers le plus facile, le plus simple, le plus courant. Alors que quelque part, Dieu pourrait nous conduire, et c'est là parfois il nous conduit dans une école, parce que nous sommes ses enfants, lui, il n'a pas renié sa paternité, nous quelquefois nous pensons qu'il est dans, il est notre Dieu ou notre Père que quand ça nous fait plaisir. Mais lui, il ne renie pas sa paternité. Et quelquefois il nous conduit dans des écoles où nous avons alors à attendre, parce que les hommes sont impuissants, parce que les médecins ne peuvent rien faire, parce qu'il y a telle ou telle situation que nous ne trouvons pas de résolution. Et pourtant nous sommes devant lui. « Seigneur, pourquoi tu ne guéris plus comme auparavant ?» Mais le Seigneur nous conduit dans une école de foi. La confiance en Dieu s'est développée, la foi en Dieu a disparu. Et ce qui est grave, c'est que là, si on parlait du monde, oui, mais on ne parle pas du monde, je parle de l'état de l'Église. Alors on pourra toujours substituer notre foi par toutes sortes d'élucubrations, toutes sortes d'illusions, toutes sortes de choses que l'on se donne en disant « j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi ». Mais ce n'est pas de le dire qui est important, c'est d'être dans la foi, c'est de vivre notre foi. C'est ça la différence. Je m'enseigne moi-même, hein, je vous le tiens à le dire. Seigneur, augmente notre foi, s'il te plaît. Augmente notre foi, Seigneur. Fais que je croie encore que tu es vivant, que tu existes, que tu es près de moi, que tu m'aimes, que tu me conduis, que tu m'enseignes, que tu as les regards sur moi, que tu fais tant de choses, dont, quelquefois avec le temps, je perds la conscience que tu es encore là auprès de moi. Et je dis bien que plus la confiance en l'homme s'est développée, plus la foi de Dieu s'est amenuisée jusqu'à disparaître. Et la conséquence, absence de miracle. Vous savez, les uns et les autres, on n'a jamais vu Dieu à l'œuvre. Moi, personnellement, hein, j'ai jamais vu Dieu à l'œuvre autant que quand j'ai été mal pris. Autant quand j'ai été malade, ou quand j'ai passé des épreuves, ou que j'étais vraiment serré de près, où là, des hommes sont montés sur ma tête. Et là, j'ai vu Dieu. Et quand tout va bien, Seigneur, c'est formidable. Vous savez, on va peut-être arriver dans des temps où l'Église va resserrer les coudes. Hein, parce que là, vraiment, on va avoir besoin du Seigneur. Mais c'est, je dis pas, est-ce que c'est souhaitable? Il y a des gens qui se frottent les mains en disant oui, qu'il arrive vraiment des temps durs, parce que comme ça les gens, les chrétiens vont se réveiller. Ouais, il y en a qui vont se réveiller peut-être, mais il y en a qui vont partir aussi, qui vont complètement virer de bord. Ils ne tiendront pas la marée, excusez-moi l'expression. Non, c'est pas comme ça qu'on raisonne. Moi, je vais raisonner avec une mentalité qui est inspirée par le Seigneur, parce que le Dieu est un Dieu d'amour et qui veille sur ses enfants, parce que lui, il sait faire les choses à la bonne mesure et selon la capacité de chacun. Mais en tous les cas, il veut que nous croyions en lui. La foi vivante a été remplacée par une incrédulité paralysante. Et vous savez, vous en avez un exemple extraordinaire, c'est à Nazareth quand Jésus est venu donner la primeur de son message. Il nous est dit que Jésus ne put faire à Nazareth aucun miracle à cause de leur incrédulité. Seigneur, délivre-nous de ce poison qu'est l'incrédulité au fond de nos cœurs. On s'en prend à ceci, on s'en prend aux autres, on s'en prend à la société, on s'en prend à toutes sortes de choses. Mais le poison, c'est l'incrédulité, c'est quelque chose, c'est une pierre pesante qui nous fait couler vers le fond. Et là, on devrait pouvoir dire, mais Seigneur, délivre-nous comme le père de cet enfant épileptique. Délivre-nous, délivre-moi de mon incrédulité. Et n'allons pas dire à quelqu'un, t'as pas la foi. Parce que ça peut se vérifier aussi un jour pour nous, eh bien à notre tour. Ça, ce sont des paroles qui sont terribles. Parce qu'on n'est pas à la place des gens, d'abord. Lequel des deux a changé, Dieu ou l'homme? La question se pose maintenant. Quand on entend Gédéon dire, où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient? Ou encore, où est celui qui mettait au milieu d'eux son Saint-Esprit? Alors, qui a changé dans cette affaire du temps de Gédéon? Ou du temps du prophète Ésaïe? Ou aujourd'hui, en 2009, est-ce que c'est Dieu ou c'est l'homme? Eh bien, moi, je vais répondre, me semble-t-il, c'est peut-être très simpliste, mais il me semble que ça va clarifier la situation. Dieu ne fait plus ou l'homme ne croit plus. Dieu ne fait plus précisément parce que l'homme ne croit plus. Ça se comprend de cette manière. À partir du moment où l'homme fait tout, Dieu ne fait plus rien. À partir où je compte sur Dieu, je m'appuie sur Dieu, je m'abandonne entre les mains du Seigneur, et moi que je ne fais rien, alors c'est lui qui va m'ouvrir les trésors du ciel. Je dis bien les trésors du ciel. Ce qu'il a en réserve dans le monde céleste pour moi. Et Dieu est prêt à chavirer le ciel et la terre pour me donner ce que j'ai besoin. Ouais. Il en est capable. Et il le fera dans un geste d'amour. Parce qu'il n'a pas donné Jésus pour rien. Vous savez que la croix, c'est un sens d'amour. Hein. Non seulement de justice, mais d'amour avant la justice. D'amour. Maintenant, simplement, il est intéressant de considérer dans quel temps nous sommes. Et on va faire très rapidement, on va faire un tour de la Bible. Il y a eu, nous pouvons dire les choses de cette manière, successivement plusieurs âges dans l'histoire de l'humanité. Et quand je parle de l'histoire de l'humanité, je laisse de côté la théorie de l'évolution. Hein. Je parle de l'humanité vue et révélée par la Bible. Il y a eu l'ère de l'Éden, ça n'a pas duré longtemps, hein. Enfin, je ne sais pas si ça n'a pas duré longtemps, il y a eu l'Éden. Il y a eu l'Ancien Monde, ce qu'on appelle la période antidiluvienne, c'est-à-dire avant le déluge, Noé. Il est parlé de justice hein, à ce moment-là, il est parlé du cœur de l'homme, un cœur mauvais, un cœur qui sortait directement de la catastrophe, hein, de la chute, naturellement. Il y a eu l'âge des patriarches, ces hommes qui ont découvert Dieu. Je pense à Abraham, je pense à Isaac, et puis tous ces gens-là, le tâtonnement, mais des hommes qui étaient en direct avec Dieu, et là où Dieu a montré qu'il était puissant aussi. Hein. Il y a eu l'époque mosaïque, c'était la loi, mais Dieu là, présent au milieu de son peuple, se manifestant concrètement, à travers des signes, des prodiges, des miracles, à travers la colonne de nuée, à travers le feu, à travers toutes sortes de choses. Il y a eu ensuite, les temps du christianisme, qui sont les nôtres, hein, quand même. Hein. Ouais, cette nouvelle période qui s'est ouverte, un printemps du monde, on pourrait dire, hein, le printemps. Et le printemps, c'est le renouveau. Il y aura le millénium. Vous croyez qu'on est arrivé dans le millénium, là? Non? Non? Rassurez-moi. Et puis après, c'est plus le temps, c'est l'éternité. Hein. Donc ce sont différents, c'est schématique ce que je suis en train de faire. Je vous annonçais un scoop. Je vais vous dire que nous sommes dans les temps du christianisme. C'est une nouvelle. Hein. Ouais, nous sommes dans les temps, dans l'ère chrétienne. Dans les temps du christianisme. Alors, ça veut dire quelque chose. Et comment a commencé l'ère chrétienne? Elle a commencé par des miracles. Elle a commencé par des guérisons. Par des signes, par des prodiges, toutes sortes de choses. l'Évangile et le livre des Actes nous le montrent à l'évidence. Le christianisme fidèle à l'Évangile est l'ère du miracle par excellence. Ça a commencé comme ça. C'est l'ère par excellence du miracle, de la présence de Dieu par le Saint-Esprit. On n'est plus compris, on n'est plus conduit par des prophètes inspirés. On est conduit parce que le Saint-Esprit est en nous. La parole de Dieu est suffisante. Vous savez que on a des éléments que les autres n'avaient pas dans l'Ancien Testament. On a une révélation que les autres n'avaient pas. Ils auraient bien voulu savoir, connaître les temps et les moments que nous vivons aujourd'hui. Ne serait-ce que par rapport à ce que Dieu nous a dit, ce que Dieu nous a confié. Alors nous sommes dans cette ère à la demeure. Et qui nous autorise ? Aux grandes âmes peut-être des théologiens incrédules, qui nous autorise que nous ne sommes plus dans le temps du christianisme ? Qui nous autorise à dire cela ? Qui nous autorise à penser que le temps des miracles est fini ? Quelle raison avons-nous de ne plus croire en ce Dieu infini et tout-puissant ? Qu'est-ce qui peut nous donner de croire que ça n'existe plus ? Eh bien, la réponse, elle est simple, elle est toujours la même. C'est l'endurcissement des cœurs et c'est l'incrédulité des cœurs. Tout simplement. Parce que si nous sommes dans la même période que celle qu'a vécu Jésus ou qu'ont vécu les apôtres, eh bien, si nous sommes dans la même période, alors il doit y avoir la même puissance. Autrement, il y a quelque chose qui ne va pas. La même puissance. Pourquoi y aurait-il quelque chose de changé ? Y aurait-il une si grande différence entre les débuts glorieux et triomphants du christianisme et ce que nous sommes aujourd'hui caractérisés par l'absence quasi totale du miraculeux ? Pourquoi ? Est-ce que Dieu, je pose la question tout à nouveau, est-ce que Dieu aurait changé ? Eh bien, moi, pour moi, Dieu n'a pas changé. Mais s'il y a quelque chose qui a changé, c'est l'homme qui a changé. Et je dirais même plus précisément, ce sont les chrétiens, ce sont les enfants de Dieu, ce sont les disciples de Jésus qui ont changé. Christ est mort, il est ressuscité, et nous sommes dans cette, finalement, cette trajectoire de vie. Le christianisme, issu finalement de toute cette histoire, aujourd'hui, par certains égards, est mort, il est sans vie et il est sans puissance. Ouais. Ça ne veut pas dire que Dieu ne travaille pas quand même. C'est vrai. Mais où sont les miracles que nos pères nous racontent ? Seigneur, donne-nous ta grâce. L'Église du XXIe siècle est un petit peu à la caractéristique de ce qu'il nous est dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, où il est parlé de l'Église de Sardes. « Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. » Mais moi, je crois encore au petit lumignon qui fume. Parce que Jésus a dit qu'il ne l'éteindrait pas. Triste constatation. Et Jésus en arrivera à donner une petite parabole de la fin des temps, caractérisant la fin des temps. C'est cette parabole du juge unique dans Luc chapitre 18, où il est dit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, et moi j'ajoute, point se relâcher de croire. » On peut toujours prier, mais si on prie sans croire, si on prie sans foi, si on prie finalement en disant « bon, on prie parce que c'est une habitude, c'est une quelque chose de machinal, c'est quelque chose, une routine, mais continuez à prier, ça n'a pas d'importance, il n'y aura pas de résultat. Mais ce que Jésus nous dit, et vous avez remarqué, qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Et moi j'ajoute de se relâcher, de prier, mais dans la foi. Dans la foi. Avec foi, en croyant de tout, nos cœurs, de tout notre cœur. Et dans cette parabole, Jésus en tirera cette conclusion. Mais quand le Fils de l'homme viendra, quand il reviendra sur la terre, grand point d'interrogation, trouvera-t-il la foi parmi les hommes ? Exactement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Il trouvera peut-être encore des hommes en prière. Il trouvera peut-être des gens qui chantent des cantiques. Il trouvera peut-être des gens qui occuperont encore les lieux de rendez-vous où on se rassemble en l'honneur de Dieu. Mais ce qui va être la caractéristique et ce qui doit véritablement peut-être marquer, et c'est tragique, ce qui marquera la fin des temps, c'est qu'il n'y aura plus la foi. ou si peu de foi. Vous savez, quand la foi dans l'homme grandit, la foi en Dieu rabaisse. Ben oui, c'est comme ça. Moi, j'aime bien la parole de Jean-Baptiste. Quand il rencontre Jésus, il dit « Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. » Seigneur, fais-nous, hein. On se bat avec ça. Hein. On a un vieil homme, on a une nature qui est toujours là pour prendre le dessus. Et on a un monde autour de nous qui enflamme tout cela et qui favorise tout cela. Et Jean-Baptiste avait raison quand il dit « Mais il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Seigneur, aide-moi à diminuer pour que toi tu croisses de plus en plus en moi. Que ma foi grandisse, Seigneur. » Oui, que ma foi grandisse. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, c'est l'apôtre Paul qui signe cette parole. Il dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. » Vous savez ce qui est important, hein ? Je vais me faire... Ce qui est important, c'est pas de venir à l'église. Ben, venez quand même, hein. Ce qui est important, c'est d'avoir la foi quand on vient à l'église. Parce qu'on ne peut venir à l'église en ayant un cœur sec, un cœur desséché, un cœur qui ne croit plus, un cœur complètement désabusé. Et là, ça ne sert à rien. Et si on vient à l'église, c'est pour que nous soyons rafraîchis par la parole. Mais faut-il qu'il y ait des prédicateurs qui prêchent encore? Or, peut-être que vous allez dire que je prêche trop longtemps, vous l'avez-vous pensé? Vous avez raison, parce que c'est la vérité. Mais une chose qui est certaine, c'est que moi, je ne suis plus prédicateur si je prêche pas. Je ne suis plus pasteur, ça ne sert plus à rien, parce que la mission première, c'est d'apporter la parole qui fait grandir la foi et qui la nourrit. On ne va pas passer notre temps à... Je ne sais pas, moi, on pourrait faire tant de choses. Hein. On pourrait jouer au Scrabble, on pourrait faire toutes sortes de choses. Enfin, c'est une suggestion. N'allez pas dire que j'ai dit qu'on allait jouer au Scrabble. Hein. Parce que là, je me fais licencier tout de suite. Hein. Et par les temps qui courent, je ne vais pas retrouver de place. Hein. Non, non, mais c'est vrai. Une chose qui est certaine, c'est que on est là pour nourrir notre foi, non pas autour d'un homme qui prêche, mais autour de la parole de Dieu qui est annoncée. Ça, c'est important. Alors, quelques-uns abandonneront la foi. Défection, reniement, abandon de la foi, athéisme consommé. Un unique remède, il faut revenir à la source. Ouais. Revenir à la source. Parce que c'est Jésus la source. C'est lui. C'est lui qui est notre vie. Il n'est pas avec nous, il est en nous si nous le voulons. Si nous le croyons, surtout. Et revenir à la pureté de l'Évangile, simplement. Le message joyeux de l'Évangile, le message joyeux de la Bible, est tombé en désuétude. On le voit, un christianisme, il est ce qu'il est, tant terrible de dessèchement moral et spirituel, comme on le voit par certains côtés, quand on lit l'histoire d'Israël, du temps de Gédéon. Hein, les Madianites avaient investi le pays, ils n'avaient plus rien à manger, c'était l'indigence, c'était la misère, toutes les structures sociales, politiques, toutes les structures spirituelles et religieuses, eh bien, avaient volé en éclats. On n'en est pas loin, hein, dans notre temps aujourd'hui. Hein. Et que de misère, que de douleur, et que de désespoir. Mais quand vous relisez ces textes, hein, le chapitre 6 du livre des Juges, il vous est dit que quand ils ont été très 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 malheureux, les Israélites, hein, il nous a dit qu'ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur envoya d'abord un prophète, et ensuite il leur envoya l'ange de l'Éternel pour les délivrer, dont Gédéon faisait partie de cet envoi, en quelque sorte. Ouais. Est-ce qu'il faut attendre que tout aille mal? Est-ce que nous n'avons pas besoin d'entretenir notre foi? Est-ce que nous n'avons pas besoin, même dans des temps de paix, d'entretenir et de faire grandir notre foi? Moi, je suis profondément triste de voir des hommes, des femmes, des chrétiens, oui, disons le nom, qui sont là, un jour ici, un jour là, de tous les côtés, à papilloter, à butiner de tous les coins, dans tous les sens, qui n'arrivent pas à avoir une stabilité. Parce que finalement, eh bien, ils ne trouveront jamais quelque chose. Mais on ne le trouve pas ici ou là, on le trouve en Jésus. C'est ça la question. On le trouve dans sa parole. On ne le trouve pas dans des émotions, on ne le trouve pas dans des vibrations, on ne le trouve pas dans toutes sortes de choses là qui nous fait marcher au plafond. On le trouve dans notre communion permanente et personnelle avec le Seigneur, mais tous les jours. Et on doit pouvoir être heureux dans la communion fraternelle, mes frères et sœurs, je le dis quand même au passage. Et c'est à nous, hein, qui nous revient dans l'entretenir cette communion fraternelle. Parce que quand on aime le Seigneur, quand on aime réellement le Seigneur, on aime aussi les frères et les sœurs. Alors que faire? Je termine. Quand je le dis, je le fais. Ça va? Que reste-t-il à l'homme? Que nous reste-t-il? Eh bien, c'est de nous repentir de notre incrédulité et de revenir vers le Seigneur. Oui. Seigneur, donne-moi la foi, donne-moi la foi, donne-moi la foi. Seigneur, montre-moi aussi que quelquefois, eh bien, j'ai besoin de faire un peu de ménage dans le fond de mon cœur parce que je suis incrédule sur certaines choses. Trop souvent. On parle très peu d'incrédulité chez nous, on parle beaucoup plus de la foi. Mais quelquefois, sans parler de trop, mais quelquefois il faudrait dire, Seigneur, fais un peu de nettoyage. Vous savez, on en a besoin. Et de revenir vers le Seigneur pour croire, croire, croire encore. Ce jour est l'aujourd'hui de Dieu. Parce que il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Mes frères et mes sœurs, vous êtes venus, c'est arrivé à 10 heures, vous allez repartir à midi. Eh bien, c'est maintenant que vous saisissez la grâce de Dieu. C'est maintenant. Et vous pouvez la saisir si vous ouvrez votre cœur. Quel que soit votre besoin, quelle que soit votre détresse, quelle que soit votre souffrance. Moi, je ne fais que parler. Il envoya sa parole et il les guérit. Moi, c'est pas mon travail, je ne peux pas le faire. Mais le Seigneur est en train de le faire dans la mesure où vous ouvrez votre cœur. Dieu a promis d'exaucer les hommes par des miracles, par une visitation puissante de son esprit, un esprit qui guérit, qui libère et qui affranchit. Dernière ou avant-dernière citation, acte 2. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes et vos vieillards des visions. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, sur tous les disciples, Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Alors quiconque, et ça c'est une des plus belles paroles de l'Évangile, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Eh oui, sauvé de ma maladie, sauvé de mes troubles, sauvé de mes conflits, sauvé de mes tentations, sauvé de tout ce que j'ai besoin. Parce que c'est maintenant que ça se passe. On a besoin vraiment d'un réveil de conscience et d'un réveil de foi. Simplement, parce que vous allez dire que j'en ai pas parlé, que je le dise quand même, quand il est question de notre texte, il nous est dit que quand il a prononcé cette parole, Pierre y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans, paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Aussitôt, il se leva. C'est une parole de puissance et d'autorité qui a été reçue dans un cœur. Et pourquoi ça marchait? Parce qu'il y avait de la foi dans son cœur. Tout simplement de la foi. Tout simplement. Alors il a cru, et vous savez les répercussions que ça a eues? Tous les habitants de l'île et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Ce que nous avons besoin de retrouver, c'est par l'expérience personnelle, l'expérience que nous faisons en Église, l'expérience de la grâce de Dieu au milieu de nous, et bien que la réputation de tout cela, que la renommée de Jésus se répande, basée sur des signes, des miracles et des prodiges. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. Et puis, comme les disciples disaient hier à Jésus, quand ils le voyaient prier, ils lui ont dit cette belle parole que j'aime bien citer, et je vais la réciter encore une dernière fois. Seigneur, augmente-nous la foi. Que Dieu nous bénisse.